Et nous en sommes à la face B de la cassette 4. Les leaders spirituels, recto-tonaux, monotones sur le plan spirituel, même s'ils sont orthodoxes à 100% et pourraient nous citer par cœur tous les conciles, toute l'Écriture et la tradition selon les pères de l'Église, mais en qui on sent que le moteur spirituel est au ralenti, sinon étouffé, en qui le souffle du nouveau renouveau continu de l'Esprit du Seigneur ne semble pas passer, circuler et se retransmettre, ces types de leaders spirituels ne sont pas à la hauteur des défis qui nous sollicitent présentement. Il faut donc ne pas compter sur eux et en chercher d'autres, beaucoup plus vivants, exemplaires, entraînants et ressourçants. Il n'y a plus de temps à perdre. Une mise au point utile en passant. Bien entendu, par ce vin nouveau du Seigneur, je n'entends nullement remettre en question en aucune manière, ni directement ni indirectement, le moindre petit iota de tout ce qui concerne l'enseignement traditionnel et officiel de l'Église concernant la nature et l'importance du rôle des évêques, successeurs légitimes des premiers apôtres en Église. Je fais mien tout à fait avec enthousiasme, sans la moindre hésitation ou la moindre restriction, le document exceptionnel du Concile Vatican II sur la charge pastorale des évêques, dont le titre est « Christus Dominus », le Christ Seigneur, et tout ce qu'on retrouve ici et là à travers les 15 autres documents officiels du Concile concernant l'autorité et la mission des évêques. Leur triple grand rôle d'enseigner, de sanctifier, de gouverner et de paître est voulu par le Seigneur, est indispensable à l'Église et doit mériter non seulement tout notre respect, mais notre plus active collaboration adulte et chrétienne. Et avant de terminer ce chapitre, permettez-moi de vous dire que si après discernement spirituel bien fait, donc suffisamment mûri, prié et prolongé, il vous apparaît en votre âme et conscience devant Dieu, et si par surcroît d'autres de vos frères et sœurs en Église semblent être arrivés de leur côté au même discernement, à savoir que votre curé, votre évêque, votre directeur, votre cardinal, votre aumônier, votre supérieur religieux ou dirigeant ou dirigeante de mouvement, à leur insu ou volontairement, peu importe, vous semble parmi les hommes ou femmes d'Église qui présentement ne semblent pas voir ou entendre ce qui se passe d'extraordinaire, n'hésitez pas. Trouvez-vous sans tarder un autre homme ou femme en autorité qui fait autorité. Trouvez-vous un autre curé, directeur, évêque ou supérieur, berger ou animateur ou animatrice, en qui vous repérez vraiment la voie VOIX et VOIE du Seigneur. En cette ère exceptionnelle des derniers temps, où tout et tous sont secoués, enjambés sans scrupules, les barrières purement juridiques et géographiques. Élevez-vous bien au-dessus, c'est le cas de le dire, de l'esprit de clocher paroissial, diocésain ou institutionnel, pour aller au plus important. Donc, au strict minimum, associez-vous à d'autres frères et sœurs. Ne demeurez pas seul spirituellement parlant. Et tentez l'impossible pour repérer des chefs de file vraiment spirituels qui voient, entendent et s'expriment, et en qui on retrouve vraiment le Seigneur à l'œuvre, le Seigneur qui éclaire, entraîne et confirme. Et voilà, nous en sommes arrivés au dernier chapitre de cette deuxième partie. le chapitre 10. Comment agir ou réagir si les difficultés se multiplient ou si apparaissent des pressions, les menaces ou les représailles? Dans ce chapitre 10, je m'adresse en premier lieu, bien entendu, à ceux et celles qui sont la cible de ces menaces, représailles ou pressions, et en même temps, en second lieu, à ceux qui, sans être eux-mêmes ou elles-mêmes visés ou atteints, seront appelés à conseiller, soutenir, guider, accompagner les fidèles victimes. Selon toute vraisemblance, et c'est en cours d'ailleurs, nombre de prêtres, religieux, religieuses et laïcs sont déjà ou vont être victimes de menaces, ouvertes ou couvertes, et de représailles même, pour avoir osé déclarer, clairement et rapidement, leurs vues, leurs options ou leurs conclusions nouvelles face, entre autres choses, aux trois proclamations prophétiques concernant les derniers temps en cours et en particulier la venue de Jésus, le renouveau de l'Église et le rôle de Jean-Paul II. Tout est et sera tenté pour les intimider et les obliger à rentrer dans le rang, celui du style 1 actuel. Tous les moyens et les discours sont ou seront bons pour tenter de les rallier de gré ou de peur. Voici mes conseils fraternels à ce propos. Je dis à chacun et chacune de ces victimes actuelles ou éventuelles, d'abord, primo, de prendre tout le temps voulu pour bien s'assurer encore une fois que son option ou sa manière de proclamer ou de se comporter est bel et bien conforme aux vues du Seigneur, que le tout a été bel et bien discerné dans la prière et la consultation au besoin, que le tout s'est accompli et se poursuit dans la vraie de vraie charité, vérité et liberté chrétienne les plus parfaites possibles. Une fois cette révision faite, et si tout semble en ordre, reconfier à nouveau son dossier au Seigneur, dans la foi et l'abandon héroïque, demander les grâces d'accompagnement nécessaires et demeurer bien en paix de conscience et de confiance. Secondo. Ensuite, pardonner sans délai et sans réserve à cette personne en autorité qui recourt ainsi aux menaces, aux pressions indues et ou aux représailles directes ou indirectes. Comprendre, entre autres choses, qu'en agissant ainsi, cette autorité trahit une très grande insécurité personnelle. Comprendre qu'elle ne comprenne pas, du moins pas encore, pour le moment. Et savoir que ces vilains moyens, menaces ou représailles, l'autorité aura tôt ou tard à les regretter et à les réparer. Bref, elle ne les emportera jamais en paradis. Et se dire que d'ici l'an 2000, tout cela sera démasqué et réparé, que ces chichis, ces embarras seront finis, et qu'en les endurant, en les unissant aux souffrances de Jésus, on peut les rendre méritoires pour le salut des âmes, le renouveau de l'Église et du monde. Quelques années d'ennui, au très grand maximum, 3, 4, 5 ou 6, ce sera bien peu à endurer en comparaison de tant de joie, de grâce, de bonheur qui vont éclater lors du grand avènement et des événements qui se préparent. En troisième lieu, enfin, Je vous dis, frères et sœurs, restez bien tranquilles. N'entrez pas dans le circuit de ces manigances aller-retour. Gagnez du temps en prenant tous les délais possibles pour réfléchir, discerner, prier, consulter. Ne mordez pas trop vite ni trop fort sur ces hameçons empoisonnés. N'entrez pas en discussion, souvent inutile d'ailleurs, ni en négociation au sujet de leurs procédés qui vous semblent clairement, à vous et aux autres, des abus de pouvoir, du légalisme malodorant ou du formalisme piégé. Notez bien, je ne vous dis pas de désobéir, mais d'obéir avant tout et surtout à ce qui, en votre âme et conscience, éclairée et discernée, vous semble la volonté divine actuelle à votre sujet. Pratiquez l'obéissance supplétive et faites-le en toute paix et sérénité, sans la moindre peur, culpabilité ou inquiétude. Jésus nous a dit que personne ne peut ni ne doit servir deux maîtres à la fois. Or, une autorité en Église qui veut à la fois être instrument du Dieu d'amour et de miséricorde et en même temps fait le jeu du malin de son esprit de non-amour, de diffamation et de menace injustifiée, sert ou tente de servir deux maîtres à la fois. Et ce faisant, il ou elle se discrédite momentanément à nos yeux et n'a plus droit à toute crédibilité morale de notre part d'ici à ce qu'elle choisisse et représente son seul maître. En ce sens, il est permis aux prêtres, aux religieux, à la religieuse et aux laïcs, dans ces circonstances où l'autorité poursuit deux objectifs contradictoires, le construire et le détruire à la fois, de ne pas vouloir transiger avec lui ou elle, ou poursuivre un dialogue malsain et stérile. Il est même permis de lui dire que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ou qu'elle préfère surseoir pour le moment à toute suite ou réponse. Rappelons-nous le discours de la scène, Jean 16, 2. On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où celui qui vous fera périr aura le sentiment de présenter un sacrifice, sous-entendu agréable, à Dieu. Et autre traduction, tous ceux qui vous tueront, moralement ou autrement, s'imagineront offrir ainsi un sacrifice à Dieu. Et l'explication de Jésus suit immédiatement, verset 3, « Ils le feront, agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent ni le Père, ni moi, Jésus. » Passons maintenant à quelques autres conseils pratico-pratiques d'attitude à avoir et à prendre. Premier conseil, personne n'est tenu en conscience chrétienne de répondre et de donner suite à une déclaration orale ou à une lettre qui semble entachée par un manque évident et grave de vérité, de charité ou de liberté chrétienne, même si son auteur et signataire est un chef spirituel notable. Personne n'est tenu de se placer sur l'enclume quand il est sûr et certain, après un sérieux discernement, qu'on tente injustement de l'écraser, de le faire souffrir ou simplement de l'éliminer. L'Évangile, vous le savez comme moi, regorge d'ailleurs d'exemples où Jésus lui-même ne s'est pas gêné pour feindre de ne pas entendre ou de ne pas voir, pour esquiver une question piégée, pour changer de propos, pour répondre à une question par une autre question, chaque fois qu'il discernait la ruse, la malveillance, l'ignorance ou la malhonnêteté intellectuelle ou morale. Il s'est comporté ainsi, pas seulement face aux pharisiens, aux scribes, aux publicains, aux sadducéens ordinaires, mais tout autant aux grands et savants de l'Église et du monde d'alors. N'a-t-il pas dit d'ailleurs à ses disciples et apôtres d'être candides comme des colombes, prudents comme des serpents, une prudence sensée? Son exemple réitéré doit nous servir de modèle en ces heures difficiles de transition en Église, où, je vous le redis pour la ième fois, les paroles, écrits et gestes marqués au coin du plus pur autoritarisme, cléricalisme, légalisme et formalisme, qui sont quatre mots modernes pour désigner les défauts mignons des pharisiens, scribes, sadducéens et publicains de notre temps, vont se mettre à pleuvoir de plus en plus. Bien des chefs spirituels, hélas, tentent présentement, pris de panique en quelque sorte par ce leadership spirituel qui vient de bas en haut en Église, avec une vigueur et une ferveur de plus en plus évidente et conquérante, tentent désespérément d'utiliser tout leur arsenal de mesures autoritaires pour intimider, inhiber, tasser ou casser les personnes, retarder ou bloquer des initiatives, décourager des projets ou faire douter des options nouvelles. Les chapitres 4 et 5 des Actes des Apôtres sont à relire, à méditer, seront même, dans certains cas, à rééditer et imiter d'emblée. Je connais bien des cas où des prêtres ou des laïcs, des responsables ou des mandatés sont déjà acculés à déclarer à ceux qui veulent les dominer au nom de leur pouvoir qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu. Vous écoutez ou l'écoutez, lui, Actes 4, 19. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, Actes 5, 29. Mes amis, le Seigneur m'a invité au début de cette mission, et je vous invite à votre tour, à prendre pour acquis définitivement que, et je cite, quiconque nous détruit en notre absence n'est jamais choisi par le Seigneur comme instrument pour nous édifier ou inspirer en son nom, en notre présence. Peu importe sa fonction, son titre ou son mandat canonique en Église. Il ne confie jamais le soin de retransmettre sa voix, VOIX, ou de faire connaître sa voix, VOIE, de bon pasteur, à quelqu'un qui n'est que, pour reprendre l'expression de saint Paul, simple métal qui résonne, simple cymbale retentissante. 1 Corinthiens 13, 1, C. Si cela peut vous encourager à vous tenir debout et en paix, voici un exemple. J'ai présentement en main la copie d'une lettre qu'un prêtre diocésain avait eu l'inspiration et le courage d'écrire à son évêque il y a déjà 3 ans et demi, l'invitant respectueusement, mais clairement, à choisir entre deux chapeaux, ou la mitre d'un évêque, qui est vraiment représentatif des qualités du Seigneur, ou la cagoule du diffamateur ou dénigreur chronique qu'il est à son égard. Il précisait que dans le premier cas, l'évêque pourrait alors compter sur son entière collaboration, mais que dans le second cas, celui de dénigreur, comme prêtre, tout en respectant son titre, il ne pouvait lui accorder ni sa confiance, ni sa collaboration, du moins pour le moment. 3 ans et demi après, l'évêque n'a pas encore répondu, ni renoncé à son péché mignon de dénigreur. Et ce prêtre continue à patienter, à prier, et à faire prier les communautés pour son évêque. Mais il se refuse à entrer dans un courant d'air de contact pollué et polluant. On ne peut vraiment pas le lui reprocher. Autre bonne attitude à avoir. Gagner du temps et s'éloigner. Je ne voudrais pas offenser qui que ce soit, mais je me sens inspiré à prendre une comparaison choc. Dans l'ensemble des ouvrages de spiritualité chrétienne, on suggère habituellement, à l'exemple des saints et des saintes, d'éviter, dans toute la mesure du possible, les affrontements inutiles avec les esprits mauvais et les démons. Même si on sait d'avance qu'en recourant aux armes surnaturelles par excellence, que sont par exemple la prière, le jeûne, la vigilance, l'eau bénite, on est sûr de résister et de l'emporter. Les saints et les saintes ne désirent pas ces luttes et ne les recherchent pas, les fuient même. Ils vont leur route d'un bon pas avec courage et paix et ne se laissent pas distraire ou inquiéter par des assauts possibles. Un peu comme le citoyen qui doit traverser un quartier plus ou moins bien famé, infesté même de voleurs, presse le pas et se préoccupe d'atteindre le but de sa course. C'est la même chose, toute adaptation et nuance faite, lorsque quelqu'un, même en autorité, s'acharne à contrarier, entravé et à dérouter. Il faut presser le pas et ne pas s'attarder sans raison. Dans son discours d'envoi en mission, alors qu'il dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », Jésus s'empresse de leur conseiller comment agir et réagir face à la persécution. Et je cite Matthieu 10, 23. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Et écoutons bien, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Si l'on refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, comme c'est hélas le cas en bien des lieux dits d'autorité en Église, sortez de cette maison ou de cette ville, dit Jésus, en secouant la poussière de vos pieds, qui est un geste de rupture connu du monde antique, Matthieu 10, 14. Autre conseil pratique, le saint silence. Bien des gens qui nous attaquent injustement mériteraient souvent, vous le savez bien, en guise de riposte, une sainte colère, ne serait-ce que pour remettre les choses au point, P-O-I-N-T, et éviter d'en venir au point, P-O-I-N-G-S. Mais il y a mieux encore qu'une sainte colère. C'est pas de colère du tout. Remplacer la sainte colère, qui se veut habituellement contrôlée et limitée, par un saint silence. Jésus ne répond pas du tout à certaines questions piégées, à des injures, à des accusations, à des questions incriminantes, même à des gestes menaçants. Luc 4, 30. Ils le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Fin de la citation. Également, lors de son procès, des attaques de ses bourreaux, il a pratiqué le saint silence. Il a utilisé la même méthode pour défendre les autres à l'occasion. Le cas de la femme adultère. Il n'entre pas dans la discussion comme telle, mais pose une question aux accusateurs, ou plutôt leur dit que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre. Ce fut la même attitude chez nombre de premiers apôtres et disciples, un saint silence. Quelques conditions sont importantes cependant pour que ce saint silence soit authentique et produise doublement ses fruits spirituels, tant chez les accusateurs-accusatrices qu'en soi-même. Le saint silence doit d'abord être vertueux. Il faut être capable de conserver ce silence pour un motif surnaturel, après véritable pardon, animé par son amour et sa miséricorde. Il doit être également libre. Rien ou personne ne m'y oblige. Ni la peur, ni la culpabilité, ni la crainte de représailles. Donc un saint silence n'est pas un refoulement. C'est une prise d'altitude chrétienne qui dégage, qui ne renfrogne pas, qui élève et soulage. Il faut donc, pour pratiquer le saint silence, savoir qu'on pourrait rétorquer, répliquer, riposter, qu'on en aurait peut-être non seulement l'aptitude mais le goût, mais croire qu'il est plus sage et vertueux de se taire, de ne rien dire, et que tout cela s'opère dans la joie, la paix, sans aucun regret. Pour nous, ce saint silence clôt le dossier de façon heureuse et satisfaisante. Il y a de grands avantages au saint silence. Un saint silence, d'abord, laisse à Dieu la voie libre d'agir comme il l'entend, pour rétablir la vérité, la charité, la liberté. Le saint silence également permet à l'accusateur de n'entendre qu'un seul écho, celui de son coup de canon à lui, celui de sa propre rafale d'attaque. En effet, quand on riposte, l'accusateur entend en dernier lieu notre coup de canon, notre rafale, et il oublie le sien. L'idée lui vient alors de répliquer à son tour, puisqu'il a déjà eu le culot d'attaquer une première fois. Mais, si je maintiens mon saint silence à sa première attaque verbale ou à sa lettre agressive, je le laisse aux prises avec un seul écho, celui de sa propre lettre, de sa propre attaque. Et l'effet produit, ce qu'il a dit ou fait lui tourne dans l'esprit et le cœur. Mon silence l'intrigue, l'oblige à s'interroger, et l'Esprit de Dieu peut alors beaucoup mieux l'interpeller. Cristallin, à la blague, nous donne une recette, une explication imagée. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cet art martial japonais qui s'appelle le karaté, qui est fondé sur l'éducation de la volonté et la maîtrise physique. Pour les besoins actuels, en ces temps exceptionnels, je vais vous suggérer, précise Cristallin, un moyen de vous protéger contre les menaces, les pressions et les représailles qui pèchent de toute évidence contre la vérité, la charité et la liberté. À savoir la pratique, non pas du karaté, mais celle du karaté, C-A-S. Ce moyen demande de la volonté, certes. Non pas une maîtrise physique, mais plutôt une grande maîtrise spirituelle. Et je termine ce point, ce chapitre, en disant, surtout, n'ayons pas peur. Le fait que l'exaspération de certains chefs spirituels risque de s'intensifier, que leurs critiques et attaques se multiplient et s'amplifient, je dirais même que dans certains cas, leur méchanceté, leur virulence et leurs accusations éclatent, tout cela est bon signe. Car il y a toujours une crise avant qu'un abcès se déclare, qu'une situation compromise n'éclate. On se rappelle d'ailleurs le récit biblique de Nabucodonosor et des trois jeunes gens, livre de Daniel, chapitre 3. Parce que les jeunes, Sidrac, Misac et Abdénago, ne se soumettent pas à ses vues et exigences, Nabucodonosor les fait jeter dans la fournaise de feu ardent, en ordonnant de la chauffer 7 fois plus que d'habitude. Et le livre de Daniel nous précise 2 choses, que les 3 jeunes se sont mis à louer et exalter Dieu, alors que les bourreaux sont morts d'avoir ainsi trop chauffé. Et l'on sait que c'est l'attitude des 3 jeunes gens qui marchaient ainsi dans le feu sans être atteints ou brûlés, avec foi et espérance, qui a été l'occasion non seulement de leur délivrance et survie, mais de la conversion soudaine du roi Nabucodonosor. À l'exemple de ces jeunes, n'ayons jamais peur de ces feux, si ardents soient-ils. Ils sont passagers, éphémères et permis par le Seigneur pour le plus grand bien de ceux et celles qui les allument et les entretiennent. Et Cristallin ajoute finement, il n'est jamais honteux ni dévalorisant d'être mal vu par des gens qui ne voient pas, parce qu'ils sont aveugles ou aveuglés, ou n'être pas entendu ou non compris par des gens qui, consciemment ou inconsciemment, n'entendent pas et ne comprennent pas ce langage spirituel nouveau. Ou cette grâce leur a déjà été offerte et ils ne l'ont pas accueillie, où cette grâce ne leur a pas encore été donnée. C'est à venir, prenons-en donc patience. Et voilà, mes bien chers amis, ce qui termine cette 2e partie consacrée aux 10 dés en Église d'aujourd'hui. Le temps ne nous permettra pas de passer à la 3e partie, mais nous continuerons notre route dans cette 2e série qui sera mise en circulation, comme je l'ai déjà indiqué, au début de l'année prochaine. Pour conclure ce partage au coin du feu de l'amour et de la miséricorde divine, j'aimerais vous offrir un bouquet de quelques réflexions qui répondent à bien des questions que je reçois en cours de route. La première, on m'interroge souvent sur l'état actuel de la pensée des évêques face à notre mission prophétique et communautaire en Église. À l'écoute et à l'observation des réactions épiscopales aux enseignements donnés depuis 10 ans dans cette mission intitulée « Église, évangélise-toi toi-même encore davantage », grâce surtout aux confidences, aux témoignages et aux messages reçus, je n'hésite pas à dire que dans chaque pays ou conférence épiscopale nationale, les réactions des évêques se répartissent, grosso modo, comme suit. Un bon tiers y croit, s'y intéresse même, et essaie vraiment d'en tirer profit. Pour le moment, sauf quelques exceptions plus courageuses, ce tiers des évêques préfère goûter et savourer ses mets et vins nouveaux du Seigneur discrètement, pour ne pas dire en cachette. Il redoute, et non sans raison, d'être taquiné, ridiculisé, blâmé même par certains des grands ténors de leur conférence épiscopale. À l'autre bout de l'éventail, il y a également un bon tiers d'évêques qui, pour des raisons les plus diverses, sont énergiquement opposés à ce type de mission prophétique en Église. Pour eux, tout et tous doivent passer par eux, sinon ce n'est pas d'Église, du moins dans leur conception actuelle de l'Église. La plupart d'entre eux n'ont pas écouté ces enseignements, n'ont jamais rencontré les personnes concernées, mais dénoncent à leur guise. Sans le savoir et sans le vouloir, ils confirment alors hors de tout doute les interpellations et les enseignements qui réclament qu'un tel type de leadership disparaisse à tout jamais en Église. Quant au troisième tiers, lui, il est, disons, oscillant, vacillant, tantôt oui, tantôt non. Certains d'entre eux étant pleinement d'accord jusqu'en 1990-92, car tous les enseignements majeurs, œuvre du Seigneur, œuvre pour le vrai communautaire, toute prière est entendue et exaucée, tout cela ne les menaçait en aucune manière. Mais depuis les grandes interpellations de 1990 et de 92, et spécialement les interpellations style de nouveau, les prophéties sur les derniers temps actuels, ils se sentent drôlement concernés, obligés de montrer leur couleur et d'opter, et cela en secoue beaucoup, en déstabilise un grand nombre. Et ne pouvant admettre, plusieurs inventent la porte de sortie suivante, et je cite, « Monseigneur Mathieu a beaucoup changé. Au début, il avait raison. Maintenant, il fait erreur. » Or, au dire même de ceux et celles qui suivent toute cette mission depuis 10 ans, de très près, il y a, ce qui les comble de joie, une très, très grande continuité, tant dans la forme que dans le fond. Et ces mêmes auditeurs et auditrices ne se gênent pas pour me dire ou m'écrire, ce n'est pas vous qui avez changé pour le pire, mais ce sont ces prélats qui ne veulent pas changer pour le mieux. J'aimerais également, en reprenant ce que l'on vient de dire, faire 3 mises au point très importantes qui vont regrouper ma pensée à la fin de cette première série des 10 dés. Mes chers amis, la première mise au point, il faut vraiment donner à tous les deux spirituels en fonction le maximum de chances au départ. Vous le savez, être en autorité de nos jours, en Église comme ailleurs, ce n'est pas une sinécure, une cure sans travail et de tout repos. Il faut penser que tout chef spirituel, dûment choisi, élu ou nommé selon les règles prévues en et par l'Église, mérite tout respect, toute appréciation, bénéficie de grâces particulières pour remplir sa mission, exercer sa fonction, être dans la mesure du possible bon et vrai pasteur d'âme. Il ne faut donc pas succomber à la tentation que Judoka le Fourbe ne manquera pas de susciter. Il se servira même peut-être de ces enseignements que nous venons de terminer pour mettre de côté ses évêques, ses autorités, trop facilement ou rapidement. La deuxième mise au point, s'il s'avère, et bien malgré nous et à regret, qu'on ne peut vraiment pas compter sur le leadership de telle ou telle personne en autorité, parce qu'on ne semble ni voir, ni entendre, ni comprendre, comme nous l'avons dit, ce qui se passe actuellement, et ne semble pas vouloir accueillir ce que je vis présentement sur le plan spirituel, ma divergence de vue, ma dissidence dans l'action, ou ma distance à prendre, au besoin, ne peuvent être définitives, mais temporaires, à vérifier de temps à autre, avec le souci de rétablir la relation dès que possible, s'il y a amendement notable ou revirement de la situation. Et troisième et dernière importante précision, qui récapitule l'enseignement, durant ce temps d'éloignement malheureusement imposé par les circonstances, hors de notre vouloir ou de notre contrôle, il ne faut absolument pas se replier sur soi, s'isoler, vouloir faire cavalier seul, croire qu'on pourra se suffire à soi-même. Il faut à tout prix compenser par un heureux pontage avec d'autres, ailleurs et autrement. Il faut devenir plus communautaire que jamais et se greffer à un îlot fraternel de partage et de prière. Et je vois au cadran qu'il me reste à peine le temps de vous remercier et de demander que la bénédiction divine, remplie d'amour, de joie, de paix, de miséricorde, de vérité et de justice, descendent sur vous, auditoires visibles et invisibles, et à travers vous, aillent rejoindre jusqu'aux confins de la terre tous nos frères et sœurs sans exception, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.